Merci beaucoup. Moi, je tiens d'abord à remercier très chaleureusement Étienne Denevet et Jean-Pierre Lebrun pour leur accueil, mais aussi les organisateurs, un accueil chaleureux et un colloque très bien organisé. J'aurais aimé, je m'en excuse, j'aurais aimé être là les jours précédents, mais ça n'a pas été possible. Alors, je tiens à dire que le propos que je vais tenir est à deux voix, puisque Étienne l'a dit tout à l'heure. Au cours résulte directement d'une collaboration, d'une longue collaboration que j'ai eue avec Jean-François Carville. J'ai utilisé le nous, c'est pas nous majesté, parce que je l'associe pleinement, bien sûr, aux propos que je vais tenir. J'ai écrit avec, effectivement, Jean-François Garnier, un ouvrage, notamment, puisque j'en ai écrit plusieurs avec lui, mais notamment l'ouvrage qui est dans la salle à côté, donc sur la dérive naturaliste et au sein de notre société, et le propos que je vais tenir est directement issu de cet ouvrage. D'autres auteurs vont parler aussi à travers moi, à commencer, ça a été dit aussi, mais je tiens à le signaler aussi, d'autres auteurs vont parler, notamment celui qui fut notre maître, notamment Jean-François et moi, c'est Jean Gagnin, bien sûr, qui a marqué à Rennes, qui a été un maître à l'Université de Rennes 2, qui est linguiste, qui est épistémologue et anthropologue, en tout cas à mes yeux, et auquel Jean-François Garnier et moi-même empruntons l'essentiel des concepts. Mais je suis aussi sociologue, et Jean-François aussi, nous sommes sociologues, nous avons été influencés par notre discipline aussi, je tiens à le dire aussi, c'est pour ça que Étienne avait raison, nous avons une propre langue, vous en avez eu un aperçu avec mon collègue de ce matin. Mais d'autres auteurs ont influencé considérablement aussi notre propos. Je vais en citer quelques-uns, puisqu'ils vont être présents. Michel Maffezoli, Gilles Lipovetsky, et puis un philosophe, Marcel Gauchet, Henri Mandras et quelques autres, que je serai amené à citer au cours du propos. Alors c'est dire que je parlerai autant que je suis parlé, vous voyez, et pas que les psychanalystes qui peuvent dire des formules comme ça, parce que ça c'est plus une formule que j'ai entendue de la part des psychanalystes, mais j'y souscris. Alors c'est autre chose que je voulais dire aussi en entrée en matière. Ça a été aussi l'occasion d'une rencontre justement avec un certain nombre de psychanalystes, Jean-Pierre bien sûr, Lebrun, mais aussi Charles Mulman, qu'on a lu, Roland Gori, quelques autres. Et c'est vrai que finalement on a trouvé un certain écho à notre thèse au sein auprès de certains psychanalystes. Alors d'où vient le propos que nous avons tenu dans cet ouvrage, comment cette problématique naturaliste finalement s'est imposée à nous? Eh bien, elle résulte en fait d'une longue immersion professionnelle au sein du secteur de l'action sociale et du travail social, puisque Jean-François Garnier était formateur dans une école de formation de travail social, et moi j'ai travaillé pendant des années au sein d'une caisse d'allocation familiale, mais aussi auprès d'établissements médico-sociaux. Et nous avons été le témoin, au cours de ces longues années, mais aussi au cours de travaux que nous avons menés sur le champ, nous avons été le témoin d'une déstructuration progressive. Alors, pardonnez-moi, je parle de l'exemple français, je ne sais pas trop ce qu'il en est de la Belgique, mais en tout cas je peux vous dire qu'en France, c'est un mouvement très fort, une déstructuration progressive et profonde de ce champ, de ce secteur, sous l'effet notamment de l'imposition de nouveaux modes de gestion et de management qui sont tournés vers le productivisme, la logique du résultat, la recherche effrénée de la concurrence, de la transparence, la quête éperdue de la performance, de la bonne organisation, etc. J'en reviendrai un peu là-dessus tout à l'heure. Et ces nouveaux modes de gestion, et ça fait écho bien sûr à ce que vient de dire Pierre de Lyon, ces nouveaux modes de gestion de management sont venus rompre fondamentalement les amarres avec tout un héritage humaniste très, très vivement ressenti par les travailleurs sociaux, je peux vous le dire, en tout cas en France, avec tout un héritage humaniste, mais aussi toute une tradition de savoir et de savoir-faire. Je pense que Pierre de Lyon vient de vous en donner une illustration saisissante, qui puisait justement pour partie son inspiration, alors bien sûr dans des doctrines humanistes, mais aussi dans le champ des sciences humaines. Et finalement, l'homme est devenu le grand oublié. C'est con, encore une fois, c'était bien de moi. L'homme est devenu le grand oublié de ces nouvelles orientations qui ont, encore une fois, droit s'empare aujourd'hui très fortement du secteur social et médico-social. Ça nous avait amené d'ailleurs, je m'en souviens ni moi-même, à écrire un ouvrage qu'on avait intitulé au départ « L'homme oublié du travail social ». Et justement, c'est ce qui nous a amené à utiliser le terme de dérive naturaliste, parce qu'il nous semblait que c'était une tendance précisément à nier ce qui faisait la spécificité proprement culturelle de l'homme. Alors on a voulu approfondir cette notion parce que c'était une intuition qu'on avait eue et on avait commencé à déployer l'analyse, mais on a voulu l'approfondir et voir surtout comment on pouvait l'élargir au-delà simplement du secteur auquel nous étions intéressés. Et il nous semblait surtout qu'il ne suffisait pas d'invoquer, comme certains collègues peuvent le faire, même si on peut y souscrire en partie, d'invoquer l'emprise d'une idéologie néolibérale et de ces nouvelles méthodes de gestion et de management, ou encore d'un économisme et d'un individualisme ambiant, même si bien sûr tout cela participe cette dérive naturaliste. Mais il nous semblait que la seule explication, si vous voulez, par une logique de la domination, hein, comme on dit dans notre discipline, la seule explication par la logique de la domination ne nous paraissait pas suffisante pour éclairer ce phénomène, pour l'expliquer. Il fallait encore comprendre les raisons pour lesquelles ces tendances déstructurantes, encore une fois, ont trouvé un terrain favorable à leur ancrage, et à leur éclosion, à leur expansion. C'est de là, donc, est partie notre réflexion. Et c'était prendre acte, le terme qui est de Jean Gallimard d'ailleurs, prendre acte du principe de la circularité anthropologique, c'est-à-dire de chercher l'explication dans l'homme lui-même, revenir à l'homme dans ses explications, c'est-à-dire dans un mode de fonctionnement qui lui est propre, et non pas de le chercher comme toute une tradition philosophique finalement nous y invitait plutôt, dans des causes premières, comme la nature humaine, la divine providence, etc., ou les causes finales, hein, ces deux grandes catégories utilisées dans la tradition philosophique. Cause finale, c'est-à-dire le sens de l'histoire, le fatum, hein, le destin inéluctable, etc. Donc on a cherché à assumer cette circularité anthropologique en nous appuyant sur un modèle d'analyse, lui-même anthropologique, que nous avons trouvé justement auprès de l'œuvre de Jean Gallimard. Alors ce choix épistémologique, il y a bien sûr plusieurs conséquences, hein, du point de vue du phénomène dont on entendait rendre compte, hein, sur cette dérive naturaliste. On a cherché à appréhender la dérive naturaliste dans le cadre de la dialectique entre nature et culture. Alors évidemment, je ne peux pas vous dire en deux mots ce qu'il y a dessous, parce que ça nécessiterait à elle seule, cette question de la dialectique de nature et culture, un colloque. Mais simplement pour dire que ce rapport nous paraît fondamental, ce rapport de cette dialectique de la nature et culture nous paraît définitoire du rapport de l'homme au monde. Qu'on ne peut pas, on doit tenir les deux bouts dans une relation qui est à la fois solidaire et contradictoire. Alors, pour le dire en quelques mots, très bref, j'ai bien conscience que ça va être un peu court, mais je tiens à le dire quand même, c'est que la nature chez l'homme, c'est ce qui fait sa spécificité, a la particularité de se présenter à travers une culture, précisément. Il y a une formule qu'utilise Jean Gallimard, reprise par Jean-Luc Brinclair, qui est un collègue et ami qui est belge aussi, qui est ici, qui nous a beaucoup aussi influencés. Jean-Luc Brinclair, donc, rappelle que Gallimard disait que l'homme est le seul être naturel capable de se dénaturer. Voilà en quelques mots ce qu'on peut dire de cette dialectique de la nature et de la culture. Alors, processus d'acculturation, comment le définir? On peut considérer que c'est une capacité d'abstraction proprement humaine, là aussi. L'animal n'accède pas à une capacité d'abstraction, en tout cas pas à la mesure de l'homme. Une capacité d'abstraction, de mise à distance, ou encore de médiation, Étienne a rappelé tout à l'heure le terme, de médiation au sens d'interposer, rien à voir avec la médiation familiale, la médiation des conflits, évidemment. Médiation au sens d'interposer, donc à l'égard précisément de l'immédiateté. C'est ça qui nous paraît être la particularité anthropologique, justement, que nous souhaitions saisir, de sorte que, par exemple, on parler du langage. Alors, on n'a pas forcément la même définition du langage que celle que vous avez en psychanalyse, mais même s'il y a des points à faire. Mais les mots que nous utilisons, par exemple, on le sait, ne collent jamais aux choses. On ne fonctionne pas par des étiquettes. De la même façon que les outils dont nous nous servons ne sont jamais liés à une seule manipulation. On est capable, avec un tournevis, d'en faire un décapsuleur et pas simplement de dévisser une vis dans le mur. Nous sommes capables aussi, en tant qu'être social, nous parlons de la personne, c'est proche du sujet, j'ai décidé de ne pas parler du sujet au sens de la médiation, pour pas, au sens de l'anthropologie clinique de Jean-Guilpin, pour ne pas confondre justement les registres. La personne, ce qu'on appelle la personne, l'être social, hein, en sociologie, c'est un terme assez classique en sociologie, ne se confond pas avec l'être biologique. Nous n'avons pas les frontières de notre espèce, socialement parlant. Et de même que le vouloir, ça a été dit hein, ce matin notamment, le vouloir ne se réduit pas à la pulsion. C'est ça la mise à distance, c'est ça l'abstraction, c'est ça la capacité de médiation, c'est-à-dire d'éloigner l'immédiateté d'un rapport au monde. Alors justement, venons-en à la dérive latéraliste. Nous évitons l'hypothèse, mais il s'agit d'une hypothèse, c'est un essai que nous avons fait. Une demande à être critiquée précisément. Je souscris tout à fait ce que vous dites tout à fait hein, tout à l'heure. Hein, on ne peut avancer à la fois pratiquement mais aussi scientifiquement que par la critique. Hein. Définir la dérive naturaliste, c'est justement pointer une tendance actuelle dans notre société, nous semble-t-il, qui oriente l'homme vers l'immédiateté d'un rapport au monde, justement. Au dépend de sa mise en forme culturelle. Il s'agit bien d'une tendance. De sorte que on aurait affaire à une sorte d'affadissement de l'exercice de notre capacité d'acculturation, mais je le dis tout de suite, je ne pense pas, enfin nous sommes départis d'un point de vue qui considérait à dire qu'il y aurait une atteinte de la structure en tant que telle, qu'il y aurait une atteinte de la capacité en tant que telle d'acculturation. Nous ne le pensons pas, nous pensons que c'est bien l'exercice de cette capacité qui se trouve amoindrie aujourd'hui, mais du fait des conditions socio-historiques dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. On serait en fait dans une sorte de basculement, je reprends le terme qu'a utilisé Jean-Pierre Lebrun ce matin, nous sommes dans un changement de paradigme. Un terme que nous utilisons aussi, je pense que nous sommes dans un changement de paradigme, effectivement, dans lequel nous sommes dans un autre bain que par le passé, qui nous pousse justement vers le pôle de la naturalisation, sans encore une fois entamer notre capacité, même si les conditions d'exercice sont amoindries, la capacité en tant que telle d'acculturation reste présente. Alors, c'est important parce que cela veut dire que, à cette tendance naturaliste, restent ouvertes des contre-tendances. Alors, c'est pour faire écho un peu au débat de ce matin, hein, sur pessimisme, optimisme. Alors, moi aussi, je me méfie un peu de ces catégories-là, optimiste, pessimiste. Mais en tout cas, c'est pour dire que ce mouvement, cette dérive naturaliste, a une sorte de contrepoint, de contre-tendance, et peut-être que, d'ailleurs, l'exposé qui avait été tenu sur la réalité virtuelle, hein, sur cet encastrement du virtuel dans l'actuel, peut participer de cette contre-tendance. Pourquoi pas, hein, je ne suis pas du tout un spécialiste, donc évidemment, mais ça m'a intéressé, justement, il y aurait peut-être quelque chose à creuser de ce point de vue-là. Mais ces contre-tendances, elles sont manifestes dans bien d'autres aspects, j'essaierai d'y revenir. Alors, nous avons essayé d'aborder cette dérive naturaliste à travers le prisme de ce que nous appelons la personne, ou l'être social, si vous préférez, à travers deux dimensions constitutives qui sont l'identité et la responsabilité. On en a parlé d'ailleurs hein, ce matin. Alors je vais résumer à grands traits hein, ce que nous avons essayé de montrer, mais je mettrai la focale que sur quelques dimensions, puisque vous imaginez bien que je ne peux pas le faire en l'espace, dans un temps aussi court, je ne peux pas aller dans les détails. Ce qu'on perçoit, c'est l'aspiration outrancière à la transparence, l'éclatement des frontières de l'intime, mais aussi certaines tendances dans le libéralisme sexuel, dans les tendances populistes, qui nous paraît constituent des indices qui témoignent d'un effritement de l'identité. Ça, c'est le premier aspect. De même que, mais je ne vais pas y me pesantir, puisqu'il y a des personnes beaucoup plus compétentes que nous là-dessus sur l'absence de l'autorité des parents. Jean-Pierre Lebrun a des pages là-dessus tout à fait éloquentes. L'absence d'autorité des parents ou des enseignants. On parlait aussi, on évoquait aussi la question, vous savez, en France, il y a actuellement une remise en cause de l'autorité de la police, qui est sérieuse, puisque, vous savez, l'actualité nous a... qui fait froid dans le dos, hein, puisqu'il y a eu des policiers qui ont été envoyés griller dans une voiture. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet événement en France, mais c'est un événement retentissant. Donc, absence d'autorité des parents, des enseignants, relativisation aussi des compétences d'autrui. On n'est pas dans le... pour en parler, si vous voulez, dans le cadre du débat, mais il me semble aussi que ça, c'est un élément tout à fait important, la remise en cause des compétences. Hein. Alors, c'est un paradoxe au moment où on parle des référentiels de compétences, qui évitent précisément toute compétence. Enfin, on peut en parler si vous voulez. Mais aussi l'affaiblissement de la force ordonnatrice du politique. Hein, cette verticalité qu'évoquait ce matin Jean-Pierre. Et tout cela participe d'un effritement de la responsabilité. Ce sont quelques indices aussi qui participent de cet effritement de la responsabilité dans les relations sociales. Mais également, on s'est intéressé à la question aussi de l'appréhension et du vécu du temps et de l'espace. Il y a des choses tout à fait intéressantes là aussi de dites aussi bien par David Le Breton que par Jean-Pierre Lebrun. Il nous a semblé aussi que cette dérive naturaliste a un impact, à la fois cause et effet d'ailleurs, de notre rapport au temps. Et celui-ci tend de plus en plus à être amputé de la référence à un passé qui est en quelque sorte ravalé au rang des antiquités, muséographié. Et il n'est pas convoqué, il n'est pas réactualisé dans un présent, et on pourrait dire la même chose pour le futur d'ailleurs. Et cette négation de l'histoire au sens anthropologique du terme, nous paraît être aussi aller de pair avec le déni de la dette que nous contractons à l'égard de nos prédécesseurs. Oh, je vais raconter une anecdote là-dessus qui me vient à l'esprit, je la cite toujours. Je fais partie d'un laboratoire et l'ancien directeur recevait un des collègues et puis lui disait « Écoute, si tu veux, on peut prendre un moment pour parler, que je te raconte un peu l'histoire du laboratoire, parce que tu arrives, c'est normal qu'on t'enseigne un peu sur l'histoire du laboratoire. » Et la réponse du collègue, il dit « J'ai rien à faire, moi. Rien à faire de votre histoire du laboratoire. » Alors, c'est quoi ça? C'est nier l'histoire, mais c'est nier la dette aussi, de ceux qui ont précédé, hein, qui avaient élaboré et édifié ce laboratoire. J'ai jamais oublié cette anecdote parce qu'elle m'avait terriblement, pour tout dire, choqué.